Lyon, Conservatoire et Chant Libre réunis, de proposer une approche de ce compositeur. Et je laisse tout de suite la parole à David Lamaze pour vous parler de Ravel. Merci.
Et moi, je vais laisser la parole à Ravel, puisqu'il y a 100 ans exactement, d'octobre à novembre 1906, Ravel écrivit ceci. Normalement, on devrait entendre de la musique à cette fois-là. Mais ça ne passe pas. La régie. Il se trouve que cette mélodie, le signe de Ravel, le signe des histoires naturelles, pardon, est la plus belle clé à ce que certains ont appelé le mystère Ravel. C'est pour cela que le livre que je viens de publier et qui est à l'origine de cette conférence s'appelle Le signe de Ravel. Le mystère Ravel, qu'est-ce que c'est? C'est l'inconnu qui plane sur la vie sentimentale de ce compositeur. On ne lui connaît aucune relation amoureuse. Face à cet inconnu, de nombreux biographes et romanciers ont cherché à imaginer, à échafauder des théories qui sont plus ou moins convaincantes, comme nous le verrons dans la première partie de mon propos. Ensuite, je vous exposerai la découverte que j'ai faite dans la musique de Maurice Ravel, à savoir la présence de deux groupes de notes récurrents et qui sont les transcriptions exactes du nom et du prénom d'une personne. Ce qui constitue une dédicace cachée va forcer à relire toute la biographie de Maurice Ravel d'un œil critique, voire même à en réécrire plusieurs chapitres. Pour rentrer et faire connaissance avec Maurice Ravel, mettons-nous dans la peau de Ricardo Vignès. Ricardo Vignès, c'est un pianiste catalan qui arrive à Paris en 1887 avec son prix de piano de Barcelone en poche et qui va rapidement connaître Maurice Ravel car leur mère se rencontre pour parler espagnol. Pourquoi ? Parce que la mère de Maurice Ravel est basque du côté français, mais elle a passé une partie de sa jeunesse en Espagne et notamment à Madrid où elle a connu le père de Maurice Ravel, Joseph. Le 1er novembre 1896, Maurice Ravel et Ricardo Vignès, qui sont contemporains, ont 21 ans. Ils vont au concert où on jouera le prélude du second acte de Tristan et Isolde de Richard Wagner. Je me permettrai de parler sur la musique que je vais vous passer pour vous dire ce que Ricardo Vignès écrivit le soir même dans son journal intime à propos d'une réaction inhabituelle de Maurice Ravel. Au moment où je me disais terriblement ému qu'il n'y avait rien dans la création de ce sublime et divin que ce superbe prélude, à ce moment, Ravel m'a touché la main en me disant « C'est toujours comme ça, chaque fois que je l'entends. » Et effectivement, lui, qui paraît si froid et cynique, lui, Ravel, le super excentrique décadent, Ravel tremblait convulsivement et pleurait comme un enfant. Mais profondément, car par à coup, les sanglots lui échappaient. Jusqu'ici, malgré la haute opinion que j'avais sur l'intellectualité de Maurice Ravel, comme il est tellement renfermé pour les moindres choses de son existence, je croyais que, peut-être, il y avait un peu de parti pris et de chic dans ses opinions et goûts littéraires. Mais depuis cet après-midi, je vois que ce garçon est né avec des inclinations, des goûts et des opinions, et que lorsqu'il les exprime, il ne le fait pas pour avoir l'air snob et suivre la mode, mais parce qu'il les sent vraiment. Et je profite de cette occasion pour déclarer que Ravel est un être des plus malheureux et méconnus. Car il passe aux yeux du vulgaire pour un raté, alors qu'il est en réalité une intelligence et un artiste supérieur, un pauvre être déplacé et qui serait digne d'un sort merveilleux. Il est de plus très compliqué, il y a en lui un mélange de catholique du Moyen-Âge et d'un petit sataniste. mais avec aussi l'amour de l'art et du beau qui le guide et lui fait ressentir candidement, comme il l'a démontré aujourd'hui en pleurant à l'écoute du prélude de Tristan et Iseult. Moi aussi, ce prélude m'a produit le même effet, seulement moi, je pleure en dedans, ce qui peut être encore plus intense qu'extérieurement. Retenons que à 21 ans, Maurice Ravel a déjà un côté élégant, une apparence chic, qui le fait croire snob par ceux qui le connaissent mal, mais retenons surtout que ce jour-là, Ricardo Zignes perce la carapace et qu'il se rend compte qu'il y a un fond pur et candide dans la psychologie de Maurice Ravel. Quelqu'un d'autre nous le dira, il s'appelle Léon-Paul Fargue, c'est un poète parisien qui appartient au groupe des Apaches, un groupe d'amis dont Ravel faisait aussi partie, et qui nous dit « Le souci de bien faire, de contenter les exigences les plus secrètes d'un esprit constamment en éveil, donnait à Ravel l'aspect d'un gentilhomme un peu sec, difficilement abordable, méticuleux et froid. Quelle erreur ! Sous l'enveloppe du musicien épris de netteté et de précision de l'auteur du Boléro, une des œuvres les plus singulières de la musique moderne, se cachait un cœur aimant, simple, doux et tourmenté. » Ravel lui-même va avaliser ce témoignage sur le tard de sa vie. Il se confiera à un voisin de Montfort-l'Amaury qui s'appelle Jacques de Zoguel et dira une phrase à mon avis importante pour ceux qui veulent comprendre ses sentiments. Il dit « On parle de ma sécheresse de cœur. C'est faux, et vous le savez, mais je suis basque. Les basques éprouvent violemment, mais se livrent peu et à quelques-uns seulement. » Je pense qu'il est assez dommage que les biographes ne se soient pas arrêtés à ces témoignages de première main, mais aient essayé d'expliquer l'absence de connaissance de la vie sentimentale de Maurice Ravel en échafaudant plusieurs théories. Je vais vous expliquer ces thèses, enfin vous dire celles qui sont à la mode. Certains disent « Ravel aimait trop sa mère, et donc il ne pouvait aimer que ce soit d'autres. » Alors, malheureusement, le seul argument, c'est le grand chagrin qu'il éprouva à la mort de sa mère. C'est un peu léger, vous en conviendrez, surtout lorsqu'on sait que Ravel, lors de la Première Guerre mondiale, s'est engagé, alors qu'il avait été réformé deux fois de suite, et s'est engagé en sachant que sa mère, qui était âgée, qui était veuve, n'y survivrait peut-être pas, il le dit dans des lettres à des amis. Et Marie Ravel meurt en 1917, au début, donc on peut tout à fait imaginer qu'il se soit senti responsable de cette mort. Donc passons sur première explication qui souvent invoque des gens comme Freud, mais sans vraiment rentrer dans les détails ni dans l'exactitude, pour une deuxième thèse qui est à mon avis la plus pernicieuse des trois. C'est celle qui met en valeur une qualité de sa musique, à savoir l'achèvement de ses œuvres, la précision, en oubliant, en occultant une autre qualité qui est toute l'émotion qui lui insère. C'est quelque chose qui a été formulé par plusieurs personnes. Alors on rappelle que le père de Ravel était ingénieur, on rappelle qu'il avait des ascendances suisses. On rappelle aussi le mot assez injuste de Stravinsky qui parlait « Ravel, cette horloge est suisse ». Enfin, cette thèse a une illustration très récente, donc dans le livre, sous ma lecture en tout cas, de Jean Echenoz qui est paru au début de l'année, et dans lequel je trouve qu'il se fourvoie complètement, parce qu'il nous abreuve de détails, comme si c'est ce qui intéressait Ravel, la minutie, et il occulte tous ses sentiments, même ses amitiés avec des personnes dont on sait qu'il était très proche, pour en faire un personnage qui est en fait assez antipathique. Donc si je voulais dire du bien de ce livre, je dirais qu'il n'est pas cher, qu'il est court à lire, et qu'il est deuxièmement pas cher parce qu'après on n'a pas envie d'aller au concert, ni d'acheter les partitions. Donc si vous suivez bien un livre que je n'ai pas aimé. C'est donc la plus pernicieuse et pas la plus argumentée. Je pense qu'elle repose principalement sur l'absence de connaissances qu'on a. La troisième thèse est plus argumentée que celle-là. C'est celle qui ferait de Ravel un homosexuel caché ou refoulé. Alors, c'est une thèse qu'on trouve, par exemple, mais pas seulement chez lui, qui est assez ancienne, dans un livre de 2004 de Étienne Rousseau-Ploteau, Ravel, portrait basque, chez Atlantica. Alors, ce livre est, a des parties très bien faites, notamment les recherches sur la généalogie basque de Ravel, très intéressant. Par contre, la démonstration, entre guillemets, de son homosexualité est prête quand même à critique. Donc, premier argument de Étienne Rousseau-Ploteau, Ravel a écrit sur un texte qui n'est pas de lui, la mélodie L'Indifférent. Cette mélodie présente le regard d'un homme ou d'une femme, on ne sait pas, vers un jeune homme efféminé. À la lecture du texte, certes, on voit une allusion à l'amour homosexuel. Mais est-ce que cela veut dire que son auteur l'était ? À mon avis, non. Surtout si on regarde toutes les œuvres de Maurice Ravel, dans lesquelles on est frappé par la prédominance du thème de l'amour entre hommes et femmes. Donc, je ne pense pas que ça puisse être un argument. Si on pense à l'heure espagnole, c'est drôle, avec Concepción et ses trois amants, si on pense à Daphné et Chloé, dans une autre veine, si l'on pense aux mélodies sur les textes de Mallarmé, à toutes ces valses, qui la valse c'est là à l'époque, c'est même la danse de couple, qui sont les plus sensuelles, disons, qu'à notre époque, et qui viennent dans la valse, dans les valses, dans les valses sentimentales, mais une grande partie de l'enfant et les sortilages est une chaîne de valse. Donc, un argument qui me semble pas une preuve, en tout cas. Un autre argument, et selon moi très risible, donc je vais vous citer la, telle qu'elle, les propos de M. Ploteau, pour qu'on ne puisse pas m'accuser d'avoir déformé sa pensée. Donc, il dit, en adulte, il sortait beaucoup la nuit à Paris, comme à Cibourg ou Saint-Jean-de-Luz. Hélène Jourdan-Morange a raconté, pour la période d'après 1920, que Ravel avait peur de l'insomnie et retardait toujours le moment de rentrer. Il adorait marcher la nuit dans les rues de Paris. Et Étienne Rousseau-Ploteau de s'interroger, que cherchait-il dans ses déambulations nocturnes ? Il rencontrait beaucoup d'amis dans les cabarets et restaurants à la mode. Mais il cherchait peut-être aussi ses rencontres furtives. On parle beaucoup Julien Green pour lui-même dans ses mémoires. Bon, ça se passe des commentaires. Moralité, ne sortez plus le soir, n'allez plus au concert, allez voir beaucoup de conférences à 15h30, comme ça vos voisins ne jaseront pas. Mais je n'ai rien à dire de plus sur cet argument. Troisième argument, le phare et le parfum que Alma Mahler, dans ses souvenirs, a décrit lorsqu'elle l'a hébergé en 1929, elle est âgée, il y a 54 ans, et lorsqu'il est venu à Vienne pour une série de concerts. D'abord, il faut savoir que à cette époque, les hommes mettaient encore parfois de la poudre de riz en tant que fond de teint. Et deuxièmement, nous allons lire le texte d'Alma Mahler pour voir si elle, qui était aux premières loges, glisse dans ses souvenirs des sous-entendus, quels qu'ils soient. Elle dit « Il prenait un vif plaisir à jouer un rôle inquiétant. C'était un masque de perversion singulière que portaient en ce temps-là, à Paris, les jeunes musiciens cultivés, comme par exemple Darius Milhaud, mais seulement en manière d'amusement, et il en était sans doute de même de Ravel. » Car c'était un homme de culture et de sensibilité raffinée, comme Millot, Poulenc et tous nos autres amis du groupe de musiciens français modernes. Ravel se plaisait à porter des vêtements de taffetas éclatants qu'il exhibait le matin, lorsqu'il apparaissait chez moi, fardé et parfumé pour le petit déjeuner. Personnellement, la lecture que j'en fais est celle d'une preuve supplémentaire de l'élégance de Maurice Ravel. Il faut savoir aussi que, quand Ravel a défini son esthétique, notamment par rapport à un musicien viennois, Schoenberg, il a dit « Je n'ai pas peur, et je n'ai pas peur d'un certain côté de la musique qui est le charme. » Et dans le charme, l'élégance aussi, quelque chose est une composante. Donc je pense que ce caractère est lié aussi à son esthétique. Dernier argument, qui m'a fait plus réfléchir parce qu'on n'avait pas le contexte. Étienne Rousseau-Ploteau dit que Ravel s'est défini comme un type dans le genre de Louis II de Bavière, en moins lourd. Alors, il est de notoriété publique que Louis II de Bavière était homosexuel. Mais qu'est-ce qui pousserait Ravel, lui si pudique, à dire une phrase si impudique? Donc il faut chercher le contexte, qu'on trouve dans une autre partie de son livre, en fait, et pas encore pas entièrement, mais il faut aussi savoir ceci, c'est que Louis de Bavière avait la frénésie de construction. Nous avons Herrenchiemsee, nous avons, il a construit Neuschwanstein, c'est le château de la Bois dormant, pour ceux qui aiment le lycée, parce qu'ils sont inspirés. Nous avons Linderhof, il n'avait pas fini de construire ces trois châteaux qu'il avait projeté déjà de faire un palais chinois et un château sur le mont Falkenstein. Ceci coûtant des millions de dettes au cabinet, et le premier ministre et cabinet ont fait déclarer Louis II de Bavière fou par un expert qu'il n'avait même pas vu, et un peu plus tard, il est mort, s'est suicidé, dans un lac, mais beaucoup se posent des questions sur cette mort. Et ceci se passe dans les années 85-86, ma mémoire est bonne, et Ravel a déjà 11 ans, et la France est revancharde, et elle lorgne sur tout ce qui peut se passer de sa lasse de l'autre côté du Rhin. Donc ce sont des choses qui se savent. Maintenant, pour le contexte de la lettre de Ravel, en fait, c'est en 1921, ce n'est pas du tout une confidence à quelqu'un qui serait dans le sein des saints, c'est simplement une lettre en août 1921 à la femme d'un journaliste musical, critique musical, Georgette Marnold. Et il dit « Maintenant que mon installation est terminée, je voudrais aller recommencer autre part. Je suis un type dans le genre de Louis II de Bavière, quoi, en moins louche. » Et bien, donc, ce plateau a déjà un petit peu refait le français de Maurice Ravel, c'est dommage car il est très imagé, enfin en tout cas, c'est amusant. Et donc, en 1921, à droite, vous avez Montfort-l'Amaury, la première maison qu'il ait achetée et dans laquelle il a fait beaucoup de travaux. Donc, Ravel, dans cette lettre, fait référence à la frénésie de construction de Louis II de Bavière. Donc, un autre argument qui n'est pas en tout cas une preuve. Donc, les trois thèses dont je vous ai parlé me semblent principalement basées sur un vide qui a excité l'imagination des biographes ou des romanciers, ou des deux quand ils sont les mêmes.